Merci Laetitia Gaillet, on se retrouve à midi pour d'autres infos. Original, soyez les bienvenus sur France Inter avec Morgane Cadignan, avec Paul Mirabel, bonjour. Alexandre Colminet, tout à l'heure Tanguy Pasturo, Daniel Mora est avec nous également. Et nos invités, Gérard Depardieu et Patrice Lecomte.
Mais quelle affiche! Quelle affiche!
Tous deux, absolument, tous deux sont réunis et viennent nous parler de Maigret en salle aujourd'hui, réalisé par Patrice Lecomte d'après le roman de Georges Simenon, avec notamment Gérard Depardieu mais aussi Mélanie Bernier. On va parler avec eux de ce retour de Maigret, le commissaire Maigret sur grand écran. Vous avez connu à l'enfant, peut-être vous êtes plus jeune.
Plus jeune
à la télévision, les Maigret.
Oui, je regardais pas, mais
toi, Alexandre, tu connaissais Paul?
De nom, mais j'ai jamais vu.
Ouais, t'as jamais vu. Morgane, c'est peut-être
Version avec Kramer, avec ma grand-mère. Cadignan contre Kramer.
C'est la version avec Jean Gabin, forcément.
Non, Pierre Richard. Jean Richard.
Bravo, pas mal. Kramer, on est bien tous les deux.
On est bien tous les deux, on est bien partis.
Bonne équipe. On va jouer autour avec notre blind test. D'après vous, on va parler de quoi dans ce blind test?
Pipe.
Pas du tout, allez.
Daniel?
Ouais.
Police?
Bravo.
Waouh.
Ah bah oui.
Alors?
C'est un commissaire.
Premier point pour Daniel.
Eh ouais.
On poursuit.
Daniel?
Ouais.
Karma Police.
Ouais, et le groupe?
Radiohead.
Bravo.
Ah bah c'est la seule que j'aurais pu avoir, dis donc.
C'est pas la police, l'automne.
Non, c'est le karma. C'est là qu'il y avait un piège.
Deux points pour Daniel. On joue autour de la police, le champ lexical de la police, pour parler de Maigret avec nos invités. Troisième titre.
Alexandre.
Psychose.
Psychose. Ouais. Alexandre.
Oui.
Ah, Morgane.
Oui.
C'est assassinat de la police.
Alexandre. Paul. ATM.
Bravo, ah ouais, Paul. Police suprême NTM. Troisième point pour Paul Mirabel quand même. On note que Paul a marqué.
On fait une pause, on fait une hola.
On continue, quatrième titre.
Alexandre,
oui.
Axel Follet.
Ouais.
Le flic de Beverly Hills.
Oh yes.
C'est London Music Works, le nom du groupe. Je sais pas si vous l'aviez, moi pas du tout.
Il y a un nouveau shérif dans la ville, mec.
Ok, mec.
Deux points pour Daniel, un point pour Paul, un point pour Alexandre.
Attention,
Morgane.
Ouais.
Morgane, qu'est-ce qui se passe? Cinquième titre.
Daniel, Dark Commissar.
Bravo, l'autre. Le groupe
Falco.
Bravo. Vous connaissiez les autres?
Non, pas du tout.
Alors, je dois dire que... Là, ça, vous connaissez.
Oui. Mais j'aurais jamais eu le nom du groupe.
Pas le groupe. Venez me voir sur la piste, les gars.
T'as chopé là-dessus.
Trois points pour Daniel, avec Der Kommissar de Falco. Il reste deux titres, complètement accessibles.
Hyper sympa en tout cas.
C'est dur les slows quand même.
Vous connaissez le groupe?
Ah ouais, mais si je me trompe dans le nom, ça va donner un truc très bizarre.
C'est un truc hyper évident, très très connu. Tu vas pas te tromper dans le nom.
Non,
alors c'est que c'est pas
c'est
ça.
Pas là.
Daniel, tu devrais trouver parce que tu.
Un petit indice, peut-être.
Daniel a rencontré le chanteur, ça vous aide pas beaucoup?
Daniel, t'as rencontré le chanteur?
J'ai rencontré le chanteur?
Ouais.
Tina Rossi?
Police and Thieves. OuiFM, quand t'étais à OuiFM, t'as rencontré le chanteur?
Ah, je l'ai rencontré.
Bon, vous l'avez pas.
Non.
Les Clash?
Les Clash, mais ouais. Oui, c'est okay. Les Clash.
Bravo,
Daniel.
Okay.
titre peu connu des Clash, mais les Clash quand même. Le Super Banco, c'est tout de suite. On continue de jouer dans ce blind test autour de la police pour parler de Maigret. Notre cher commissaire Maigret. C'est le Super Banco. Celui qui remporte ce point remporte la partie. C'est parti.
Alexandre ?
Ouais.
Ici, d'ici ?
Non.
C'est Nick.
Français, anglais, américain, anglais. Espagnol ?
Anglais, américain.
C'est français.
C'est français.
C'est français, madame.
C'est de la police de France.
Écoutez.
Gendarmerie nationale.
C'est grosse guitare, là.
On peut avoir la voix ?
Jean-Jacques Goldman.
C'est grosse guitare, vous allez avoir une grosse voix.
Johnny Hallyday ?
Non. Le titre, c'est Police Milice. C'est parti, la voix. Ça va venir ?
Daniel, dernier bon voisin.
Ouais, donc
Trust.
Bravo, Daniel. C'est Trust et c'est une victoire de Daniel Morin. Victoire, Daniel.
Bravo, Daniel.
5 points, plus le Super Banco exceptionnel. Et on accueille nos invités. Patrice Lecomte, s'il vous plaît, Gérard Depardieu.
Écrasant, Daniel.
Écrasant.
Il a tout écrasé, Daniel. Il a tout écrasé avec ce blind test super commissaire, super flic pour parler du retour de Maigret sur grand écran. Il n'était pas arrivé sur grand écran depuis, je crois, 58, c'est
58.
Ça
58, oui, ça, c'était Jean Gabin, qui n'était pas le plus mauvais Maigret, mais qui maintenant a trouvé son maître.
Vous avez fait un classement des Maigrets avant Gérard Depardieu. Vous avez
Oui, j'ai un top 5.
Ouais.
Et en queue de liste, il y a Mr Bean. Vous savez que Mr Bean,
non.
Comment il s'appelle
Rowan Atkinson.
Ouais.
A joué Maigret.
Et ça, c'est un crime de lèse-majesté pour un Français que ce soit un Britannique qui le fasse.
Je sais bien que les Belges sont surréalistes, mais les Anglais sont davantage.
Trop d'audace.
Là, notre Maigret aussi, incarné par Gérard Depardieu avec brio, est aussi un peu surréaliste parce que ce Maigret doit arrêter de fumer.
Oui. La raison est que la panoplie de manteau, chapeau, pipe me semblait un peu lourde et clichetonneuse. Mm-hmm. Et avec Jérôme Tonnerre, avec qui on a écrit ce film, on a eu cette idée qui, moi, m'a collé au plafond de bonheur. On a décidé que le docteur Paul dit à Maigret au début du film, il faudrait mieux arrêter le tabac. Et je me suis dit, voilà, exit la pipe. Passez-moi l'expression.
Très bien. Et le personnage de Maigret a l'air complètement désespéré parce qu'on sent que là est son bonheur, quand même.
Oui, mais enfin, je pense que ça m'aurait fait chier de prendre une pipe sans arrêt. C'est pas possible.
Ah, c'est vrai, ça vous arrange
pipe,
aussi.
C'est, tous les accessoires m'emmerdent, vraiment. C'est pour ça que j'enlève jamais le manteau ni le chapeau. Parce que ce sont des accessoires, dès que tu les portes, ça fait partie du personnage.
C'est le costume,
c'est
absolument.
C'est ça de moins à jouer.
Donc, dans ce film, c'est un film adapté du roman Maigret et la jeune mort de Georges Simenon, qui n'avait jamais été adapté au cinéma, à la télévision, oui, mais pas au cinéma. Et on est plongé aux côtés de cet inspecteur, de ce commissaire, dans une enquête sur la mort d'une jeune fille qui a été retrouvée lacérée de coups de couteau. Personne ne connaît son identité. On sait simplement, grâce à certains détails, qu'elle porte une robe de grand prix, qu'elle a vraisemblablement participé à une soirée. On ne sait pas grand-chose. Et finalement, l'enquête consiste pour le commissaire Maigret à savoir qui est cette jeune femme. C'est ça ?
Je pense, oui.
C'est ça qui nous avait bouleversé en le disant, c'est parce que ça c'est furieusement original, c'est-à-dire qu'au lieu de savoir qui a tué quand, comment, pourquoi, Maigret se dit mais qui était cette jeune fille dont personne ne se souvient, dont on ne sait même pas le nom, cette jeune fille qui aurait eu 18 ans bientôt, et la fille de Maigret qui elle-même est morte aurait eu 18 ans en même temps. Donc il y a un rapport purement émotionnel, ouais. Enfin, très bouleversant.
Elle est morte de quoi, la fille de Maigret ? Parce que c'est jamais...
c'est le moment de s'en renseigner.
Ça, j'en sais rien.
Non, mais elle est morte. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas non plus qu'elle allait mourir, cette jeune fille.
Non.
C'est peut-être cette raison qui fait que c'est l'innocence qui meurt.
Ouais, c'est l'innocence. Ouais. Et puis nous aussi, en tant que spectateurs, on se pose la question, de quoi meurt on se doute bien qu'il y a quelque chose d'affectif, qu'il y a quelque chose de particulier dans la relation que votre personnage, Gérard Depardieu, entretient avec une autre jeune fille qu'il va rencontrer et qui va lui faire penser à la disparue. Il va même la faire loger au même endroit.
Oui, Jade. Jade Labesse, remarquable.
Qui incarne cette jeune femme. On se demande... Il y a un lien, il y a quelque chose, mais on ne peut pas savoir à quoi est due la disparition. Est-ce que Simenon répond à cette question dans les bouquins ?
Non, si, non, enfin, j'ai pas relu tous Maigret, ils s'en foutent beaucoup, tous les Maigret, mais y a pas d'indice. Simenon raconte rien de plus, rien de moins. C'est à nous, non pas de fantasmer, mais de rêver, ou de cauchemarder plutôt, oui, à propos de ces morts inacceptables, bien sûr.
C'est la première... Simenon, il questionne pas, il écoute. Ouais. Donc, et il ne juge pas.
Non.
Il fait son enquête.
C'est ce que dit le commissaire Maigret lorsqu'il... Il entrevoit certaines mœurs sexuelles un petit peu parallèles, on va dire, oui, ça comme ça dans le film. Il dit très clairement qu'il ne juge pas, mais qu'il veut juste quelques explications sur la tournure des événements. C'est la première fois que vous travaillez ensemble tous les deux. Ça semble fou, en fait, de pas.
C'est vous fou, avoir. Je ne sais pas si réuni... si ça semble fou, mais. Ouais.
Mais quand vous voilà tous les deux, en tout cas.
Mais je savais, je sentais, on se connaissait pas. On a dû se frôler, se croiser deux fois et demi dans notre vie. Et on ne s'est connus vraiment que pour faire ce film. Et parfois, des journalistes me disent « Mais comment se fait-il que vous n'ayez jamais travaillé ensemble, tous les deux ?» Alors, la réponse, elle est évasive. C'est que l'envie, elle était là. Parce que j'ai une admiration formidable. J'ai plus que de l'admiration. J'ai de l'affection pour cet homme-là. Infiniment d'affection. Pour ses zones d'ombre, ses fêlures... cette grande carcasse si joliment cabossée. Et c'est vrai que...
Il rougit là.
Non, mais il faut attendre l'occasion, quoi.
Ouais.
C'est l'occasion qui fait le larron et nous avons été les larrons.
Pardon, l'occasion fait le larron.
Mais c'est tout nouveau, ça vient de sortir.
C'est formidable, il y a toujours des occasions magnifiques comme ça. Non, Patrick, je le connaissais un peu avec eux. Comme tout le monde, il y a des bronzés, mais j'ai surtout vu, je suis monsieur dire, mais ce que j'aime chez Patrice, c'est la précision de ce qu'il dit, et puis la précision de ce qu'il filme, parce que tout est fait avant, et on se fait pas chier à attendre des mecs qui cherchent un câble ou chose.
Ça, c'est important pour vous de pas attendre.
Mais oui, mais ils sont totalement malades, enfin, vraiment. Ils sont encore à l'école.
C'est marrant, ça me rappelle un autre film aussi, dans lequel vous jouez.
Ah oui. On non, mais c'est pas possible, tandis qu'avec Patrice, on sait. Et là, le plaisir revient. Ah. Et c'est formidable, parce que tous les techniciens que je connaissais, aussi Yves Angelo, le son, les machinaux, les rails, parce que c'est pas facile à travailler, à pousser, surtout quand on a des répliques où il faut qu'ils s'arrêtent dessus. Enfin, et puis surtout les cadres.
Oui.
Les cadres et le suspense dans ces cadres, tout en faisant... Il fait très attention aux escaliers, parce qu'il sait que je ne peux pas les monter, mes genoux se cassent à chaque pli de l'escalier, et c'est vraiment agaçant. Et je lui dis, on ne va pas monter tout ça. Il me dit, mais non, sur quoi ça coupe avant.
Il est facile à diriger, Gérard Depardieu.
Ouais, cette expression pompeuse à direction d'acteur est une expression totalement bidon. Les gens, les réalisateurs, les metteurs en scène qui vous disent « Moi, je suis un grand directeur d'acteur » sont des gens foutres parce qu'on ne dirige pas un acteur.
On en pense tous ceux qui sont venus à cette table et qui ont pu le dire.
Ce sont des gens foutres.
Mais faut appeler un chat un chat. Hein.
Je confirme. Voilà, hein.
Non, mais parce que... Ils partent du fait que les acteurs sont des marionnettes, quoi. Et un acteur n'est pas une marionnette et dont on pourrait tirer les fils ou un bout de pâte à modeler. Un acteur est une personne intelligente. Si le scénario est écrit correctement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, quoi, quand tout est dit. Et puis surtout, quand on a la chance de travailler avec un acteur ou une actrice qui a l'instinct immédiat du jeu, du sentiment de la scène et tout ça, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit deux, trois trucs, nous, entre les prises. Je lui dis, tiens, tu ne crois pas que... des petites choses comme ça, mais on était, oui, il y avait une longueur d'onde commune, il y avait la confiance, on était à l'écoute, et puis le film avançait, et puis c'était bien.
C'est un très beau film qui nous plonge en effet dans ce Paris aussi, parce que c'est un film, on l'a dit, il y a des costumes, il y a des accessoires, on est dans une ambiance, j'ai envie de dire plus que dans un film d'époque, on est dans un film d'ambiance historique, je sais pas si c'est juste...
Vous avez raison, ça me touche parce que le film se passe dans les années 50 à Paris en effet, mais ce que je trouve assommant, c'est quand on envahit un film avec des détails d'époque, oui, les fameuses rues envahies de véhicules d'époque et ça, c'est vraiment assommant. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout, parce que c'est comme si ces reconstitutions envahissantes nous détournaient de la vraie, du vrai enjeu du film, l'enjeu, encore une fois, purement émotionnel. Les personnages, tout ce qui se passe. Et j'ai envie toujours de faire des films, non pas intemporels, mais qui ne soient pas furieusement datés. parce que si on date trop les choses, on les date avec une petite couche de poussière désuète et c'est ça, ça me barbe.
Et Maigret est en salle aujourd'hui. Allez voir le nouveau film de Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu. Vous y passerez un très bon moment. Pour ceux qui connaissent le commissaire Maigret, eh ben je pense que vous ne pourrez plus vous détacher de l'image de Gérard Depardieu dans ce rôle. On est d'accord, Patrice ?
Je suis d'accord.
Pour moi, voilà. Maintenant, vous êtes déjà mon comte de Monte Cristo, Gérard Depardieu. Mmh. Vous êtes maintenant mon Maigret. Vous êtes mon Cyrano de Bergerac. Il va falloir un moment se calmer parce que sinon je vais vous voir absolument partout. Ça commence à être un petit peu pénible, mais vous êtes vraiment un super Maigret.
C'est notre Rodin, c'est notre Balzac, Rodin. C'est notre Depardieu.
J'ai pas fait la liste, mais voilà. Vous l'avez compris, on a aimé le film. On est ravis tous les deux de vous accueillir autour de cette table. Merci en revanche, beaucoup. Ici, il y a quelqu'un qui vous aime pas vraiment, c'est Morgane Cadignan. Allez. Allez. Je suis curieuse de voir ce que tu vas dire.
Allez, c'est
non, mais je vous aime pas tous les deux parce que déjà, Gérard Depardieu, quand il se déplace, c'est pour deux promotions en même temps, quoi. La prochaine fois, il va venir pour trois films, un bouquin, en profiter pour passer tranquille, une petite annonce pour un canapé. Après, je comprends. Vraiment, faut pas multiplier les occasions de se retrouver dans ce studio avec nous, quoi. Moi, si je dors ici par terre, c'est uniquement pour des raisons pratiques et l'amour des acariens. Patrice Lecomte, vous avez réalisé Maigret et donc vous venez nous parler d'un seul film, quoi. Franchement, la honte, hein, faut bosser. Maigret, célèbre commissaire interprété par plusieurs acteurs différents. Les Anglais, ils ont James Bond, Roger Moore, Sean Connery, Daniel Craig. Nous, on a Maigret qui a été joué dans des films et téléfilms par différents comédiens, Jean Richard, Bruno Kremer. Du coup, je me suis intéressée au personnage original qui est décrit comme suit. Physiquement, il s'agit d'un homme imposant, large d'épaule, à l'allure bourrue et robuste, parfois inquiétante. Bon, Gérard Depardieu, Maigret. Paul Mirabel, chaton, pas Maigret.
Non, pas Maigret.
Souvent, il semble prendre son temps pour résoudre une enquête un peu lentement. Ah, attends, Paul, c'est pas perdu. Attends. Amateur de blanquettes de veau, aimant le vin et les alcools. Bon, bah, Leïla et moi, Maigrette à fond. Le souci, c'est que moi, après trop de vin, je suis plus Maigret. Je bascule du côté de la jeune morte. Voilà. Honnêtement, j'ai vu le film Robe de luxe et perte d'identité. Ça ressemble beaucoup à mon vendredi soir. Et c'est fou parce qu'il y a toute une page Wikipédia hyper précise sur le personnage. On apprend que son surnom, c'est le raccommodeur de destinée. Putain, c'est classe. Pardon, mais moi, mon surnom, c'est Momo. Donc, le raccommodeur de destinée, c'est stylé, quoi. Y a qui à la soirée? Oh, bah, Polo, Patou, Gigi et le raccommodeur de destinée. Ça doit être un gars qui fait bien les mojitos, ça, le raccommodeur de destinée. C'est pas un j'en foutre, quoi. Comment faire? Non, une expression que Patrice va comprendre. C'est un joyeux luron. Voilà. Ça vous va, ça, joyeux luron. Et sur cette biographie de Maigret, comme s'il s'agissait d'une vraie personne, on apprend également qu'il a suivant les différents romans entre 45 et 60 ans. Un peu comme Gérard Depardieu, en fait, qu'on soit chez Blier, Truffaut, Corneau ou Lecomte, vous avez un peu tous les âges. Et ça doit être ça, être une institution, quand quelqu'un demande « mais il a quel âge, au fait ?» et que absolument personne ne sait répondre, et surtout que tout le monde s'en fout. Et j'ai trouvé ça drôle que dans la description de Maigret, on dise qu'il est robuste, qui est le titre de l'autre film dans lequel vous jouez et qui va sortir. Si ça se trouve, c'est le destin, et les deux étaient un peu faits pour s'entremêler, c'est à s'y perdre. Moi aussi, je suis en double promo aujourd'hui. À la fois, j'aime pas Gérard Depardieu et Patrice Lecomte, et à la fois, je les aime quand même. Il y a de quoi se paumer. Heureusement que je porte très mal le chapeau melon et que j'ai vraiment du mal avec la pipe parce que je suis pas passé loin d'être Maigret et encore moins loin d'être un bon coup. Malheureusement, j'ai pas le temps ni pour l'un ni pour l'autre car moi je rappelle que je dors ici.
Wow, voilà. Morgane.
Morgane, que vous retrouverez la chance à Saint-Étienne demain soir.
Exactement.
Gérard Depardieu l'a dit, Patrice Lecomte, vous avez déjà adapté Monsieur Hir, c'est un simnon. C'est votre deuxième Simenon. Il y a une histoire avec Simenon personnelle.
Oui, non, une histoire presque familiale. J'avais une grand-mère, Jeanne Guilin, qui venait nous garder quand nos parents partaient en voyage, et elle amenait tout le temps avec elle des Simenons, des Maigret. Elle lisait que Maigret.
Ouais.
Et quand elle les avait terminés, moi, je les lui fauchais sur sa table de nuit et je lisais Maigret. Et curieusement, au début, j'étais adolescent ou préadolescent. Acnéique, sans doute. Mmh. Et bah oui, c'est pour situer un peu la période. Enfin, ça dit, pour moi, c'est une période très longue. Et je trouvais que c'était une littérature vraiment formidable, mais je me demandais si c'était vraiment de la littérature, tellement c'était agréable à lire.
Trop facile.
Comme si, quand on est adolescent, on doit lire Chateaubriand et on s'emmerde un petit peu. Mmh. Et donc, là, je lisais Simenon Maigret et je m'emmerdais pas. Je me dis, ça doit pas être de la littérature puisqu'on s'emmerde pas. Et en fait, depuis, Simenon ne m'a jamais vraiment quitté et m'a accompagné de loin en loin ou de près en près jusqu'à, mais pas à Maigret, enfin pas que Maigret évidemment, oui. Loin de là, mais Simenon en général, qui est un auteur formidable, dont j'adore le talent inouï. Et moi, je cours après ça dans tous mes films, c'est d'arriver à s'en tenir à l'essentiel, sans jamais être sec. Et les livres de Simenon, ils font 200 pages.
Oui.
C'est un peu comme si il disait, tiens, j'arrive à la page 200, oh, je vais trouver une fin. C'est ce qu'il faisait souvent.
Et vous, Gérard, vous êtes un grand lecteur. Est-ce que les Maigret font partie de votre bibliothèque?
Non, j'ai lu Simenon. Oui. Beaucoup de ses romans, beaucoup de la période américaine, où il a écrit 5-6, puis j'étais fasciné par les romans. Maigret, j'avais l'impression de le connaître, puisque je le voyais à chaque fois, il a été adapté 100 fois. J'ai vu Gabin, j'ai vu même Harry Bord dedans, j'ai vu Charles Laughton aussi. Mais et puis Maigret, c'était un personnage, c'était un peu comme les flics dans la littérature. Hein. Il y a Porphyre, il y a Javert, il y a toujours Fouché, des grands flics, quoi. Voilà, mais Maigret, c'est plus qu'un grand flic, c'est une espèce, c'est la chair d'un flic. Ouais. Et puis il y a ce couple, Madame Maigret, qui est très bien, et puis le détail de toute cette vie qu'il a. Et puis cette police, qui est un peu fouille-merde, mais qui n'est pas justement fouille-merde. Il ne fouille pas, il écoute les gens. Bref, ce Simenon nous fait aimer non seulement la vie, mais les personnages qui la fréquentent. Et c'est très 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 beau. Je me souviens des Anneaux de Bicêtre, par exemple. C'est des grands morceaux, même s'il écrivait très rapidement. Parce qu'on dit qu'il écrivait en 9 jours.
Est-ce que tu connais cette anecdote absolument formidable, j'adore, de Hitchcock, qui avait téléphoné à Simenon parce qu'il voulait lui dire un truc. Et la personne qui répond au téléphone répond à Hitchcock, écoutez, ça va pas être possible parce qu'il est en train d'écrire un nouveau roman. Et Hitchcock a répondu, je ne quitte pas.
Comment vous l'avez préparé, ce personnage, avec tout ce que vous venez de nous dire, Gérard Depardieu, sur ce que représente Maigret? On dit toujours de vous, Gérard Depardieu, que vous êtes un acteur génial, que la partition, vous réussissez à l'adapter avec une grande intuition, une grande intelligence. Comment est-ce que vous préparez un rôle vraiment?
Je ne prépare rien.
Est-ce que c'est vrai que vous ne préparez rien du tout?
Non, je ne prépare pas, je regarde. D'abord, je regarde des gens qui sont autour, et puis Patrice, avant, que j'avais vu. Puis quand j'ai lu le script de cette jeune morte, je trouvais que c'était extraordinaire. Quand tu commences une enquête au blanc, je la termine au blanc. Bon. Ça m'a parlé tout de suite.
Ça marche, mais d'accord, ok.
Puis Patrice aussi, c'est élégant. Il est très élégant parce qu'il sait. Parce qu'il est. Il connaît tout ce qu'il veut faire. Il n'a pas à se vanter de faire du cinéma. Il le fait. C'est pour ça d'ailleurs que je travaille très peu dans un film. Je leur dis, écoutez, si vous voulez, faut faire ça en 3 jours. Non, mais il y a 10 jours. Ah non.
Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que ça, c'est quoi? Ça vous épuise? Vous seriez moins
non,
bon avec le temps?
Non, parce que plus, si tu leur donnes plus de temps, ils le prennent.
Mais cette humanité de Maigret, cette tendresse. Il y a une scène dans ce film, sans dévoiler, parce que ce serait vraiment dommage, où votre personnage se rase.
Oui.
Et dans la pièce d'à côté, on entend sa femme, dont on va parler, parce que c'est une super comédienne, Anne Loiret, qui est en train d'échanger avec Jade Labeste, le personnage de Betty. Et là, il y a quelque chose qui traverse ce personnage, qui fait qu'on a envie de prendre ce gros bonhomme, cette carcasse énorme, qui rentre pas dans mes bras, mais on a envie de la prendre dans ses bras quand même à ce moment-là. Il y a quelque chose qui traverse votre personnage. Ça, je veux bien entendre que vous préparez pas en amont, mais...
Ça s'écoute, et puis ça se joue pas, ça se vit. Et la vie, c'est quoi? C'est d'arrêter de se raser et de faire entendre ce qu'ils se disent derrière. Et lui, ce qu'il entend, ça le bouleverse. Parce que après, il y a l'histoire. Donc, ça aussi, c'est Simenon. C'est les silences de Simenon qui sont très importants, comme chez Duras, d'ailleurs. Duras était très, très éloquent dans ses silences. Et c'est pour ça que les intellos s'entourent de Duras, comme une grosse ceinture, un gros rouleau de scotch. Non, quand elle arrête de parler, on continue la phrase. C'est formidable. Chez Maigret, c'est chez Simenon, c'est un peu ça.
Les silences de Maigret sont encore du Maigret.
Sont encore du Maigret.
C'est un petit peu comme Mozart, en fait.
C'est vrai. Comme on parle de l'art du comédien aussi, je voulais... faire un clin d'œil à André Vims, qui nous a quittés il y a quelques jours, qui fait partie de ce film, qui interprète le personnage de Kaplan. Et j'aimerais juste qu'on l'écoute.
Ce qui m'intéresse chez les acteurs, souvent, c'est l'aller-retour. C'est une espèce de truc entre le personnage et eux-mêmes. Mais sans tomber effectivement dans l'autobiographie. Je pourrais citer des acteurs que je connais, que j'admire beaucoup, mais qui sont complètement dans l'autobiographie, etc., qui eux mettent tout leur chair, leur ventre, leur machin dans ce personnage. C'est extrêmement compliqué. Je crois que ceux qui parlent le moins bien de leur métier, c'est les acteurs, souvent. Ils sont tellement habitués à dire les mots des autres qu'ils ne trouvent pas leurs propres mots.
Voilà pour ce clin d'œil à André Wims.
Ben, c'est agréable d'entendre sa voix. Même s'il n'est plus là, bien sûr. Et il y a très longtemps, quand j'avais fait Monsieur Hir, adapté déjà de Simenon, André Wims était dans le film. Il était le flic, assez original, décalé, assez singulier dans Monsieur Hir. Et là, je suis allé le trouver et je lui ai dit, j'aimerais bien que tu sois Kaplan dans le film qu'on prépare et tout ça. Il m'a dit, oh, tu sais, je suis fatigué, j'ai été très malade. Il avait pris un coup de vieux, mais il était bouleversant parce qu'il avait des fêlures partout, quoi. Et puis il m'a dit, je vais faire ton film. Et il a une scène avec Gérard vraiment magnifique, quoi. Et alors, ça aurait été son dernier film, et il n'aura pas eu le temps de le voir. Mmh. C'est dommage.
Quand il dit que les acteurs, il était très acteur en même temps, mais c'était d'un acteur avec ce côté de l'Est. C'est-à-dire que les gens qui étaient des malgré nous, quoi, aussi. Il y avait toute cette espèce de choses qui travaillaient avec lui. Non, c'est surtout, on s'est retrouvés sur le plateau impeccable. vraiment, c'était très bien, mais j'ai beaucoup aimé sa scène.
Oui.
Parce qu'elle était totalement décalée, comme une bulle, parce que s'il parlait pas de la même personne. Et ça le maigrait de la tête vue. Mais en même temps, on sait pas, mais c'est, en tout cas, la fin de sa scène, c'est dur de perdre un enfant, comme il le dit, sans même imaginer la difficulté que c'est de perdre un enfant. Mais cet enfant, il est en lui, quoi.
Mmh. Oui, parce que c'est ça qu'il dit à Maigret, il dit, c'est terrible de perdre un enfant, vous savez, il ne reste rien, plus que la nuit. Et Maigret lui répond, je sais, Monsieur Kaplan, je sais.
Mmh. C'est là qu'on...
Et donc c'est Maigret qui lui-même a perdu un enfant, c'est Gérard Depardieu qui joue le commissaire. Enfin, il y avait un petit club sandwich d'émotions qui était assez conséquent.
Qu'on saisit bien quand on voit le film aussi. Voilà. Et c'est pour ça que ce sourire aussi dans ce miroir, il n'est pas complètement anodin. Dans le casting aussi, on a parlé d'Anne Loiret. Parce que Maigret, il faut lui trouver une femme. Il faut trouver une femme à Maigret, il faut trouver une femme à Gérard Depardieu qui joue Maigret. Et là, c'est là que le metteur en scène, le réalisateur...
Sincèrement, j'ai pas hésité longtemps, parce qu'Anne Loiret, je l'ai souvent vue au théâtre. Elle est vraiment parfaite. Et je me suis dit, elle sera une Madame Maigret idéale, parce qu'elle est ni bobonne, parce que ça aurait été affreux, quoi. La soupière et le pironton, ça aurait été rabat-joie, quoi. Et puis, pas très gratifiant pour Maigret. Il faut pas non plus que ce soit une bombe sexuelle, parce que on se dirait, mais qu'est-ce qu'elle fout là?
C'est donc, pas crédible.
Et elle est, Anne, elle est séduisante, tolérante, il y a des espèces de bienveillance.
Aussi.
Elle est amoureuse sûrement de son
admirative. Elle est près de l'amour, en tout cas. Elle est près de l'amour, et puis elle a les mouvements de l'amour. Enfin, on sent que c'est de là, Seb, et qu'ils ont vécu ensemble. Et c'est très bien. Elle est formidable. J'aime énormément. Elle a une douceur. Elle a une douceur de mère qu'elle n'est plus chez Maigret. Et ils accompagnent leur douleur avec des gestes tendres. Et puis des écoutes tendres. Et ça, c'est beau.
Maigret en salle aujourd'hui. Et la musique de Bruno Coulet. Essentiel la musique aussi pour nous
essentiel,
transporter.
Et Bruno Coulet a écrit une partition vraiment formidable parce que c'est une musique qui plane au-dessus de la tête des personnages
et qui est pas trop chargée.
Non, bah non.
Ouais,
mais une musique qui parfume le film juste comme
qui
il faut.
L'espace.
Oui, elle est là ou alors peut-être qu'elle est là-bas. Ah non, elle est ici. Mm-hmm. J'adore ça.
Et ça va avec votre vision de la ville de l'ambiance historique plutôt que du film historique, quoi. C'est saupoudré, c'est
oui, moi je serais vraiment incapable de faire un film dans lequel il n'y aurait pas de musique.
Ouais.
C'est, la musique fait partie intégrante des films que l'on fait, des films que l'on rêve.
Maigret en salle, aujourd'hui avec un très beau casting. On a parlé de Jade de Labesse, de Mélanie Bernier, d'Aurore Clément, d'André Wilms, d'Hervé Pierre et de bien d'autres encore. Mais tout de suite dans la bande originale, c'est Paul Mirabel.
Casting. Ouais. Allez mon Paul.
Allez.
Bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour Morgane, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui?
Ah oui, super.
Eh ben écoutez, moi aussi, ça va. J'ai regardé les Jeux Olympiques d'hiver la semaine dernière. Alors je pensais que jusqu'à présent, j'avais mené une existence dangereuse, mais en fait, ça va. puisque j'ai découvert entre-temps qu'existait sur Terre le bobsleigh. Le bobsleigh, c'est deux personnes qui mettent une combinaison fluo, un casque et qui s'assoient dans une luge avec pour objectif d'aller plus vite que le TGV. alors qu'elles ont des vies de famille et que l'abonnement Netflix est à 12 euros. Je rappelle tout ceci sans y être obligé, bien sûr. Hein. C'est une initiative totalement impersonnelle. Par exemple, quand vous vous dites « Tiens, j'irais bien me promener à Saint-Germain-des-Prés », il y a des gens qui se disent « Tiens, j'irais bien remettre en question mon assurance vie en faisant de la luge dans un toboggan ». Et ce qui m'interroge surtout, c'est à quel moment dans la vie tu choisis que ça devienne ton métier ? À quel moment, après avoir fait de la luge en étant enfant, tu te dis « Bah voilà, papa, maman, je me suis trouvé, moi c'est le bobsleigh ». Je me suis renseigné, en plus, c'est un véhicule qui peut monter jusqu'à 150 km/h. Alors il faut vraiment être sûr que tu as fait tout ce que tu devais faire sur Terre avant quand même, puisqu'une fois j'ai fait du poney, ça rentre dans le top 3 des sensations les plus fortes que j'ai eues dans la vie, avec le jour où j'ai vu Leïla descendre un litre de gin tonic alors que j'avais même pas fini mon croissant.
Et
le
alors...
matin. Il y a des sports moins prenants en termes de suspense dans cette compétition. Par contre, par exemple, le ski de fond. Alors en termes d'ambiance, pour que vous voyez, c'est l'équivalent de la fois où on a reçu Guy Savoy ici pendant 1h30 pour nous parler de la soupe de potiron. C'est-à-dire que c'est pas inintéressant, mais ça te donne très envie d'aller fumer une cigarette. Et pourtant, je ne fume pas. Il y a un seul sport qui pourrait me convenir aux Jeux Olympiques, je pense, c'est le curling, puisque ça ne demande aucune capacité sportive à part être là. C'est les mêmes compétences que pour attendre le bus, à peu près. Le but du curling, à titre informatif, c'est de faire avancer un caillou sur de la glace en frottant avec un balai. Voilà.
Ouais.
On pourrait croire qu'il manque un bout de la phrase, mais en fait, pas du tout. Je vous avoue que j'ai pas trop compris à quel moment c'est devenu une discipline olympique, puisque si ça c'est un sport, je pense qu'on peut officiellement intégrer le Uno aux Jeux Olympiques d'été.
Mais oui.
Moi, il y a juste quelque chose que j'ai pas trop compris en regardant la compétition, c'est qu'ils ont organisé les Jeux Olympiques d'hiver dans un endroit où il n'y a pas d'hiver. Peut-être que vous avez vu les photos, ouais. Ça ressemble quand même beaucoup plus à la zone industrielle de Clermont-Ferrand qu'à Chamonix. Il y a un snowboarder qui a raté son saut, il a atterri directement dans les rayons de la FNAC. Mais ce qui est intéressant dans les Jeux Olympiques, par contre, et dans le sport de manière générale, c'est qu'il n'y a aucune certitude. C'est à l'image de la vie, en général, on préfère qu'elle nous surprenne et qu'elle nous réserve des surprises. Pourtant, moi, il y a une chose dont je suis sûr et certain, c'est que de mon vivant, en hiver, vous ne me verrez pas avec des moon boots. Voilà, je vous dis ça parce que j'ai croisé quelqu'un qui en portait en venant ici. S'il y a des auditeurs qui ne visualisent pas de quoi on parle, c'est des chaussures qui font la taille d'un appartement à Paris à peu près, et qui te donnent l'impression de faire du 44 alors que tu fais du 36. Tu les déposes pas dans ton entrée d'ailleurs, tu les ranges directement dans un garage. Moi j'ai un ami qui en a une paire chez lui, elles amènent leurs enfants à l'école et elles ont même prévu d'aller voter dans les mois prochains. Pour qui en revanche, je sais pas, mais comme dit le proverbe, l'important c'est de participer. Bon, je vous laisse parce que j'ai un bobsleigh qui m'attend pour aller à mon prochain rendez-vous, donc je vais devoir y aller très bientôt. Merci tout le monde d'avoir écouté.
Bravo,
c'est
donc on sait qu'on va t'offrir un livre de soupe, Paul, on a bien compris. T'as des dates peut-être, Paul, à nous donner ?
Oui, je joue au Grand Rex pour les dernières dates de mon spectacle en mars 2023.
Oh, ça va être super, bon, on sera au rendez-vous. On va plonger dans votre bande originale, messieurs, et on va commencer dans les années 70. En 74, Gérard, vous écoutiez. Oh, very young, what will you leave us this time ? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want... Cat Stevens, Gérard Depardieu.
Cat Stevens, oui, absolument.
Vous êtes un fan ?
C'est sûr, donc. Ah oui, oui. Et il est devenu musulman après. Très bien.
Pardon, j'ai pas compris.
Je dis après, il est devenu musulman.
Oui, oui, c'est converti. Absolument.
C'est formidable.
Ouais, ouais, ouais.
Beaucoup. Tu vois, voilà les migrants, même l'Amérique.
C'est après avoir chanté ça qu'il est devenu musulman ?
Pardon ?
Après avoir chanté ça, il est devenu musulman.
Non, il a fait. Il avait des grands. Il était très proche de tout ça, mais c'est quelqu'un de très bien, Cat Stevens.
Dans cette période-là, Gérard Depardieu, on vous retrouve dans Les Valseuses. Oh. Forcément, tous autour de la table, on a l'impression de toucher un moment mythique de l'histoire du cinéma. En vous voyant ici, vous jouez avec Patrick Devers, Miu Miu, film de Bertrand Blier. Et vous racontez dans certaines interviews où c'est Bertrand Blier qui raconte les nuits Ah. Pendant que lui travaillait, lui se disait qu'il fallait qu'il reste isolé parce que sinon il ne pouvait pas finir ce tournage.
Oui.
Et
oui.
En revanche...
Oui. Ah ben bah non, nous ah c'était terrible. C'était terrible. Parce que, pas tellement avec Patrick, puisque Patrick était avec Bibliou à cette époque. Il sortait pas. Moi, j'étais avec l'assistant et l'équipe, avec Bruno Lutten. Et Bertrand Blier, le matin, disait à metteur en scène, il est toujours seul. Mais j'ai dit, pourquoi? On est là, on sait notre texte, on est dans nos marques, va bien. En plus, on était, c'est vrai qu'il y avait une sacrée santé. Hein.
Apparemment, vous dormiez tout habillé.
Oui, mais c'est souvent, je dors tout habillé. Dans le soleil de Satan, j'ai jamais quitté la soutane, je ne peux plus la remettre. Oui, puis là, mais j'avais mon vieux survêtement dessous, je jouais au foot comme un curé.
À Montreuil. Après, vous avez quand même raconté que Patrick sortait de temps en temps avec vous, notamment cette phrase, moi, qui m'a fait hurler de rire en préparant l'émission. Un matin, Blier vous voit et vous demande bah, qu'est-ce qui s'est passé. Et vous dites, je sais pas ce qui s'est passé, mais Patrick a roulé une pelle à un bulldog. Alors, à mon avis, cette soirée-là, oui. vous étiez tous les deux.
Certainement,
ouais.
Mais d'ailleurs, quand c'était à la mort de Jeanne Moreau, quand elle se tire la chose, elle se tire. On était dans un hôtel à Rouen, et Patrick avait vraiment une tête de foie. Vraiment, il était. Et j'ai dit, mais bordel, on va jamais se réveiller. On était dans un lit tous les deux, c'est le coup de feu qui nous faisait se réveiller. Mais la tête de Patrick, quand il se réveille, mais c'était un foie vert. Comme si la bile avait fondu dedans.
Oh. En fait, les personnages qu'on voit dans les valseuses sont complètement sortis de l'écran, quoi. Oui. C'est vous dans la vie, tout simplement.
Ah, mais c'était chiant pour lui, pour Bertrand, c'était chiant. Vraiment.
Parce que c'était incontrôlable.
Ben, c'est.
On parle de directeur d'acteur, là.
Ben non, parce qu'un film, c'est pas des vacances. Et là, c'était nous, c'est plus que des vacances. Mais il y avait même aussi. Il y avait Bruno Lutten. Il y avait tout le monde. Ils étaient tous allumés à fond. Non, c'était un très, très joli souvenir. C'est pour ça que j'ai voulu rester à faire du cinéma. Parce que je me dis, ça doit être comme ça, formidable. On mange à la cantine tenue midi. On peut sortir le soir, on se fonce. On boit beaucoup.
On s'amuse, voilà.
Enfin voilà, c'est très bien. Puis Bertrand faisait des dialogues. Mais à chaque fois, souvent, il disait, tu sais ton texte. Ben, je lui dis, bien sûr, c'est mon texte. Pourquoi? Je ne sais pas d'habitude. On verra. Il y a un moment où c'était vraiment très chaud, j'avais une longue tirade, et je ne sais pas, et j'avais rien à la tête. Et bien, je l'ai enfilé comme ça, comme on enfile une belle route, avec des jolis arbres.
Une soutane.
Non, rien, j'avais même pas peur. Je disais, mais non, je le sais. J'étais persuadé de le savoir, et je le savais.
Non, on a eu peur pour autre chose, en fait.
Mais on bon, est content que le mot était route.
Voilà. Oui. Enfiler une belle route, c'est super. On passe à l'année 75,
on
et avec vous, Patrice, vous écoutiez. Si maman si, et là c'est l'histoire d'un tournage qui est bien moins festif. Les WC étaient fermés de l'intérieur avec Coluche et Jean Rochefort, scénario coécrit avec Gottlieb. Et vous dites, j'ai pris 10 ans en 15 jours.
Oui, heureusement que c'est pas tous les 15 jours.
Ouais.
Mais comme le tournage se passait très mal, je rentrais chez moi et j'écoutais France Gall. Étant président du club des Midinettes, ça me faisait du bien.
C'était votre premier film, ça
aurait
C'était
pu, mon premier film, ça aurait pu être le dernier.
Ouais, ça aurait pu marquer la fin de votre envie de réaliser.
Et sincèrement, c'est comme c'était, on va pas retourner un vieux couteau dans une vieille plaie. Je souffre encore. mais je rêvais de cinéma, rêvais de faire des films. Je faisais ce film, ça se passait très mal, je dormais plus. Et je me disais, si c'est ça le cinéma, c'est que j'ai rêvé à côté de la plaque. Donc je mène ce film à bien, parce qu'on peut pas quitter un film en cours de route. Et puis après, je fais autre chose. J'ouvre une mercerie à la Bastille, ou je sais pas quoi. Enfin, un truc plus cool. Et puis, je sais pas quelle mouche m'a piqué. Je me suis dit, non, dans le fond, je vais continuer à faire des films.
Et vous avez raison.
Et heureusement, parce que sinon, on serait pas là avec Gérard à nous parler de ce qu'on vient de faire.
Quelques années plus tard, oui, ça valait le coup. On passe à l'année 85. Et à cette époque, Patrice Lecomte, vous réalisez Les Spécialistes, un film avec Gérard Lanvin et Bernard Giraudot, un film d'action.
Oui. Parfois on me dit c'est quand vous avez fait Tandem, alors là vous avez changé de registre. Et en fait non, avant Les Spécialistes, j'avais fait que des comédies. Et c'est un homme que j'aimais beaucoup, un producteur, Christian Fechner, qui m'a posé cette question que je ne m'étais jamais posée moi-même. Patrice, est-ce que vous voulez faire toute votre vie des comédies? Et j'ai répondu oui, non, bon, je sais pas. Pourquoi cette question? Il me dit parce que voilà, je voudrais produire un film d'action, d'aventure. Mm-hmm. Lanvin, Giraudot, Côte d'Azur, Le Casse du siècle, et je veux faire ça avec vous. Et je m'entends encore, au bout de 5 secondes, lui dire « Ok, d'accord ». Et je crois que c'est à partir de ce film que j'ai adoré, je suis pas maso, hein, mais j'ai adoré faire des choses que je ne suis pas sûr de savoir faire.
Ah, oui,
parce que ça, je trouve ça extrêmement motivant.
Mm-hmm. Ça a été un grand succès.
Oui, très grand succès.
Plus
là,
de
je
5
peux me la péter
millions.
Deux secondes, c'était ouais. Un succès même énorme.
Plus de 5 millions d'entrées.
Oui, 5 millions d'entrées.
Plus.
Mais là, vous parlez en anciennes entrées, il faut retirer 2-0 maintenant.
Alors, d'accord, ok, c'est ça, on va modifier là. Est-ce que vous aussi, ça vous plaît, ça vous intéresse, Gérard Depardieu, de vous lancer dans des choses que vous ne savez pas exactement faire, comme vient de le dire Patrice Lecomte?
Oh bah, je fais souvent ça.
C'est vrai.
Comme je lis rien, on m'avertit quand je le tourne.
Comment ça?
Non, c'est vrai. Souvent, je vais sur un plateau, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de tourner le plus vite possible.
Mm-hmm.
Comme ça, on pense moins. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de préparation. Mais on me dit, d'ailleurs, on devrait souvent faire ça.
Trop travailler, c'est pas bien.
Non, c'est pas trop travailler, c'est se faire des choses. C'était faire le film avant qu'il soit tourné.
Ouais, je comprends.
Et ça, c'est très chiant. Et ça gêne, parce que là, il y a une perte de temps terrible. Quoi qu'il faut avoir des libertés.
Et puis aussi, si on a trop travaillé, pour les acteurs, j'entends,
oui.
Après, on passe au propre, on recopie, on met au propre, et peut-être on s'ennuie.
On passe à l'année 97. Gérard, vous écoutiez? Pas de musique, vous n'aviez pas communiqué de musique pour cette date-là, on a choisi un extrait de la BO de Monte Cristo.
Oui, c'était l'abbé Busoni, c'est Monte Cristo, c'est
Bruno Coulet, justement.
Bruno Coulet,
on voulait faire un lien avec Maigret, il est encore là.
Ah oui, c'était bien ça, ce feuilleton, voilà,
ouais.
Parce que ça s'appelait pas série à l'époque, mais j'aimais beaucoup. En plus, on travaillait avec deux coins, j'ai dit, écoute, j'ai pas envie de faire ces Monte Cristo, comme Dumas l'a écrit, fumeur de hache, brun, un peu à la Louis Garrel. J'ai dit, non, il faut qu'il soit clair. Et c'est un mec qui pardonne. C'est un mec qui pardonne, et sauf que la Mercedes, eh ben, la retrouve, c'est formidable après. Mais si on fait un film sur la vengeance, j'avais déjà fait un film sur la vengeance, une fois que t'as tué tout le monde, il ne reste plus qu'à pardonner après, mais encore faut-il retrouver la personne avec qu'on pardonne. Et donc, il se cherche sa Mercedes,
oui.
Et il retrouve là-bas. Comme ça, il oublie les 20 années qui ont été des galères. Mais c'était bien.
Ouais, c'est sublime. Monte Cristo, c'est encore dans les adaptations, c'est une adaptation qui fait date, Patrice Lecomte.
Oui, ça fait date, en effet. Ça fait date, ça fait quoi? 97, 95, vous dites?
Bah,
ça fait date.
97, ouais, ça fait complètement date. Vous, en 99, Patrice Lecomte, vous écoutiez. On est bien peu de choses, et mon ami La Rose me l'a dit ce matin. Natacha Atlas, mon ami La Rose.
Bravo.
Pourquoi cette musique?
Mais parce que j'ai beaucoup de goût pour les musiques orientales, et il y a des titres de Natacha Atlas qui me collent au plafond de bonheur. Alors là, elle chante Françoise Hardy, donc comme ça me permet de faire un double hommage à Natacha Atlas et à Françoise Hardy.
Et les musiques orientales, comme dans Le mari de la coiffeuse, notamment, il y a une scène merveilleuse.
Avec Jean Rochefort.
Avec Jean Rochefort, avec cette musique et ce petit déhanché.
Il est très oriental, genre, dedans.
Oui.
Parce qu'il danse.
Alors, c'était marrant parce qu'il m'avait dit, est-ce qu'il y aura un chorégraphe? J'ai dit non, surtout pas, malheureux. Il dit, c'est formidable. Et effectivement, il danse. Et manifestement, il n'y a pas de chorégraphe, à part lui-même.
Mais quel dialogue. Est-ce qu'il y aura un chorégraphe? Non, surtout pas, génial. Enfin, c'est totalement absurde et génial à la fois.
On est en 99, Patrice, et vous remportez le César du meilleur réalisateur et du meilleur film aussi, pour Ridicule.
À nouveau, me l'a pété 2 minutes.
Bah, ouais, c'est le moment, allez-y, allez. Moment pétage.
Et je ne suis pas peu fier. Voilà, c'est tout.
Un petit pétage.
Pour Ridicule, un film aussi qui a reconnu un grand succès en salle et récompensé, pardon. Là encore, on a parlé des titres, des moments difficiles, de l'ascension. Est-ce qu'après Ridicule, on vous a proposé d'autres choses? Est-ce que vous êtes senti davantage libre de faire des choses que vous ne savez pas maîtriser, comme vous l'avez dit?
Les libertés, ouais. Je les ai prises après les spécialistes, Andem, Monsieur Hir et tout ça, et où je n'en ai fait un peu qu'à ma tête, ce qui n'est pas forcément commode. Parce que si vous faites Ridicule, ça se passe au 18e, et forcément, vous arrive par coursier 5 scénario qui se passe au 18e, du genre il a l'air bon pour le 18e, ce type-là. Et moi, ça ne m'intéressait pas de faire Ridicule fait du ski ou je sais pas quoi, de faire... Donc j'ai dit non, merci, proposez-moi un autre siècle.
Et on vous propose d'aller au cinéma à partir d'aujourd'hui pour voir Maigret, réalisé par Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu, adapté d'un roman de Georges Simenon. Et pour en parler, on accueille notre spécialiste Christine Ferniaud. Bonjour. Merci. Bonjour. D'être avec nous dans la bande originale. Vous êtes journaliste à Télérama, spécialiste du polar. On aimerait un peu replacer les choses dans leur contexte, faire un petit point. Qui était Simenon, déjà, pour commencer?
Ah, dis donc, là vous y allez fort dès la première question. Alors, il était belge, il faut quand même le dire. Il est né à Liège. Il est né en 1903, il est mort en 1983, c'est-à-dire qu'il a traversé le siècle. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que vous dites sur Maigret, c'est par exemple, qui est une petite partie de son œuvre, c'est que Maigret, il commence pratiquement avec le crottin de cheval et il termine avec le yéyé. Donc c'est aussi la traversée de toutes ces époques-là qu'il fait. Et Simenon, c'est ça. Mais alors Simenon, c'est surtout un truc... Alors là, j'ai noté parce que je me suis dit que j'allais oublier... 193 romans sous son nom, 158 nouvelles, dont 75 Maigret en roman, mais aussi 176 romans sous pseudo, parce qu'il avait 27 pseudos avant 27. De commencer à s'appeler vraiment Georges Simenon. Alors, il s'appelait Germain d'Antibes, Bobette, J.K. Charles, Christian Brulle.
Pourquoi avait-il autant de pseudos? Pourquoi est-ce qu'il ne publiait pas sous son nom?
Parce que en fait, c'est un garçon qui a commencé à écrire très jeune. À 17 ans, il commence à écrire. On peut pas dire qu'au début, ce soit un immense succès, mais il arrive à écrire des tas de romans populaires sous des pseudonymes. Le dernier étant Georges Sim. Alors, vous voyez, on s'approche quand même peu à peu de Georges Simenon, jusqu'à ce qu'il vienne à Paris et qu'il s'installe. À 22 ans, il commence à vraiment écrire et ne faire qu'écrire. Donc, il avait besoin de peut-être de s'installer un peu et d'être reconnu pour ça. Moi, je trouve que c'est un immense gourmand, un peu comme Maigret. Il aime la bonne nourriture borative et il écrit tout le temps. Et c'est ça, la folie et l'extraordinaire talent de Simenon aussi.
Patrice Lecomte disait tout à l'heure que enfant, jeune, adolescent, il lisait les Maigret de sa grand-mère en se disant il y a un truc louche, j'aime bien ça, c'est agréable, c'est pas de la littérature, c'est pas aussi la littérature, ça doit être peut-être chiant, c'est peut-être le postulat qu'on a de départ quand on est ado. Comment est-ce qu'on peut parler du style de Simenon?
Je crois que c'était Colette qui disait que il fallait qu'il continue à enlever comme ça peu à peu du superflu. Et effectivement, Simenon, on croit que ça n'est pas de la littérature, que ça n'est pas de l'écriture, et en fait, c'est le sens d'une phrase courte, l'adjectif mesuré, peu d'adjectifs, un dialogue très simple. Et c'est ce que vous rendez très très bien dans ce film, parce que il y a un moment, par exemple. Où Gérard Depardieu dit « Fermez-lui les yeux ». Et je trouve que c'est magnifique parce que ça décrit en très très peu de mots toute cette atmosphère à la fois d'empathie, de tragédie et sans en rajouter. Mais il a été un peu effectivement négligé, méprisé, populaire. Voilà, il était populaire. Mais quand même, il est dans la Pléiade. Ouais. C'est pas rien.
Ah oui. Ça, c'est donc le, ça, la c'est, vengeance, le retour.
C'est pas une petite. C'est une vraie reconnaissance, ouais, la Pléiade.
C'est une vraie révolution.
La Pléiade sous son vrai nom.
Sous son vrai nom.
Voilà. Avec toutes ses œuvres dans la Pléiade.
Avec les romans, avec déjà pas mal.
Oui, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y a combien de Maigret?
Il y a 75 Maigret.
C'est énorme.
Et c'est quand même pas mal. Et c'est au milieu de toute cette œuvre monumentale, de tous ces romans qui sont ce qu'il appelait des romans durs, qui sont simplement des romans où il n'y a pas forcément un meurtre, une enquête et, oui, et quelque chose à suivre, mais une histoire où il raconte aussi la société.
C'est ça, finalement. C'est ça, finalement, la force peut-être des Maigret, de Simenon. C'est peut-être pas tant dans le côté spectaculaire de l'enquête à rebondissement, comme les romans qu'on connaît aujourd'hui, les romans policiers d'aujourd'hui. C'est pénétrer un milieu, en fait. Parce que là, on l'a peu évoqué encore dans Maigret, la jeune femme morte, c'est aussi entrer chez les bourgeois. C'est pénétrer ce milieu-là.
Oui. Il aime bien. En fait, c'est un homme d'un milieu modeste. Comme Maigret est un homme d'un milieu modeste et il aime pas trop les bourgeois, ouais, hein, c'est vrai, il aime pas trop ces gens qui ont l'air. Et donc il soutiendra plutôt les petites gens par rapport aux grandes gens. Et la bourgeoisie en prend souvent pour son grade et ça c'est bien aussi, c'est le côté social d'un Simenon à qui on la faisait pas.
Merci à vous, Christine Ferniaud, je rappelle, journaliste à Télérama, d'être venue nous parler de Georges Simenon. Donc, dans la Pléiade, s'il fallait recommander un titre de Simenon.
Vous savez, alors
c'est pas
là,
facile.
C'est quand même pas facile. Alors, je vais prendre un Maigret. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup.
Alors.
C'est Maigret se trompe. C'est un livre de 1953. Et là, c'est justement ça, c'est Lulu, qui est une petite prostituée qui habite dans les beaux quartiers, mais au dernier étage. Et elle a un amant saxophoniste, et puis elle a un amant aussi qui l'a placé et qui est médecin. Et Lulu se fait assassiner, elle était enceinte. Qui l'a mise enceinte? Qui l'a tuée? Et ce Maigret se trompe, c'est ce passage comme ça, de l'étage au sous-sol, sans cesse, et c'est particulièrement réussi.
C'est hyper bien vendu, on a envie de le lire, celui-ci, ce Maigret se trompe. Merci à vous, Christine, d'être venue dans la vente originale. On continue de parler de Maigret, mais tout de suite, on accueille Alexandre Cominec pour le héros du jour, Alexandre.
Merci. Merci, bonjour tout le monde. Alors voilà, le héros du jour aujourd'hui, donc je remplace Daniel Morin.
Ah ouais.
Qui est présent.
Oui.
C'est pour vous dire comme ça va pas. Et pour remplacer Daniel, il faut du courage. Ouais, parce que moi, quand je remplace quelqu'un, je me mets vraiment dans sa peau. Hein, bah, je suis acteur, comme vous, Gérard, j'incarne. J'ai donc fait ce que Daniel fait tous les matins. Hein, j'ai mis du Genépi dans mes cornflakes, puis j'ai enlevé les cornflakes. Daniel ne garde que le sucre des Frosties pour que l'alcool monte plus vite. Ensuite,
Méthode.
Ah oui, non, mais accrochez-vous, hein, parce que sa morning routine, c'est pas celle de Ronaldo, hein, je vous le dis tout de suite. Ensuite, en sortant de chez moi, j'ai apporté une boîte de chicken nuggets à un SDF qui a découvert en l'ouvrant qu'elle était vide. Ouais, parce que Daniel considère les pauvres, mais ce qu'il préfère le plus au monde, c'est faire des blagues. Enfin, arrivé chez Radio France, j'ai mis un coup de boule à Paul en disant ça va, PD. Donc voilà, vous l'aurez compris, le héros du jour aurait pu être moi, hein, car il en faut du courage pour remplacer ce bon vieux Daniel. Mais je préfère mettre en lumière quelqu'un d'autre aujourd'hui.
Ah non.
Ouais, un homme sur lequel le monde et la justice s'acharnent. Mesdames et messieurs, le héros du jour, c'est Franck Le Tank.
Qui donc?
Vous allez me dire.
Ah.
Mais qui est Franck Le Tank?
Qui est Franck Le Tank?
Franck Le Tank est un culturiste et baron de la drogue anversois, qui vivait entouré de femmes, de voitures de course. Il avait même pour collègue un trafiquant marocain caché à Dubaï et un Albanais en cavale. Ça, c'est de la bande originale. Bref, des muses de l'oseille et des meufs, Franck est clairement un exemple. Malheureusement, Franck vient de prendre 9 ans de prison ferme, car il s'est rendu à la justice anversoise. Voilà. Comme quoi, hein, quand t'es honnête, tu finis toujours par te faire baiser. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Franck Le Tank, c'est plus d'un million d'abonnés sur TikTok.
Ah bon?
Ouais, parce que depuis qu'il est parti vivre caché en Afrique, comme toute personne qui n'a rien à se reprocher, Franck est devenu une star sur le réseau social. On peut voir le baron de la drogue danser, faire des playbacks, ou tout simplement nous livrer quelques astuces, comme sur cette vidéo où il nous explique que pour garder une femme africaine, il suffit tout simplement de lui donner de l'argent. Hein, merci pour tes tips, Franck. Franchement, moi je suis de plus en plus inspiré par cette nouvelle vague de stars sur les réseaux. Franck le trafiquant de drogue, Marco Mouli de la taxe carbone, l'arnaqueur de Tinder, Vous l'avez vu celui-là ? L'arnaqueur de Tinder, le mec vole 250 000 balles aux meufs avec qui il match sur Tinder. Et dire que je me faisais chier à payer des restos, quoi. Hein ? Et à les écouter en faisant semblant d'être intéressé. Ah, c'est ça. Ah, donc c'est ça la différence entre un balayage et un tie-and-dye. D'accord, super. Ah non, mais moi ça m'énerve, franchement. Parce que tous ces mecs sont invités sur des plateaux télé, ils cartonnent sur les réseaux, ils ont des documentaires Netflix et même des séries. Donc Franck Le Tang, si tu nous écoutes, je te remercie. Parce que tu m'as ouvert les yeux sur ce que je devrais faire aujourd'hui pour que ma carrière décolle. Je vous le dis aujourd'hui, j'arrête les blagues. Je me lance dans l'arnaque ou dans le trafic parce que c'est comme ça qu'on gagne des followers apparemment. Bon, je sais ce que vous allez me dire, hein, l'argent fait pas le bonheur et bien mal acquis ne profite jamais. Mais vous avez raison, c'est pour ça que je vais me repentir grâce à un projet caritatif hors du commun. Mmh. Ouais, j'ai juste besoin de 30 000 euros pour commencer la construction d'un orphelinat aux Seychelles. Laïla, tu veux cotiser ?
Bravo Alexandre Cominec.
Alex Cominec du jeudi au dimanche au Beau Saint-Martin, c'est à
vendredi
Paris.
Et dimanche au Beau Saint-Martin.
Ah, vendredi et dimanche. On continue de parler de Maigret en salle. Aujourd'hui, ça vous pouvez y aller dès à présent, film de Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu. Et puis il y a Tanguy Pasturo qui est avec nous aujourd'hui. De quoi on parle tout à l'heure?
Eh bien, je vais vous parler des tests ADN qu'on envoie à une société pour connaître ses origines. Vous savez, tout le monde fait ça. Je suis à 90% congolais.
Incroyable. Le retour de la bande originale avec Morgane Cadignan, Paul Mirabel, Alexandre Cominec, Daniel Morin, Tanguy Pasturo et nos invités sont restés. C'est Gérard Depardieu et Patrice Lecomte, s'il vous plaît. Et nous parlons de ce Maigret, fantastique Maigret. C'est évident, me semble-t-il, que Gérard Depardieu soit Maigret. Ça se pose plus, c'est pas une question.
De temps en temps, je rencontre des journalistes qui me disent que pour Maigret, pourquoi avez-vous choisi, comment avez-vous choisi Gérard Depardieu ? Et la seule réponse, c'est qui d'autre ? Oui, en effet, qui d'autre ?
Vrai. Qui d'autre ?
Franchement. Évidemment, quand un film est terminé et qu'un acteur incarne aussi magnifiquement un personnage, un rôle, on se dit, ben oui, personne d'autre pouvait faire ça. Mais avant même de tourner le film, je me disais, personne d'autre peut faire ça.
Avec un très beau casting et puis Bruno Coulet qui signe la musique. Qui nous plonge dans ce Paris un peu fantomatique des années 50, où le personnage que vous incarnez, Gérard Depardieu, doit chercher l'assassin, mais il mène surtout une enquête pour redonner une forme d'humanité, dignité à cette jeune femme, savoir comment elle s'appelait, qui elle était, quelle est son histoire, est-ce qu'il y a quelqu'un à prévenir, est-ce qu'il y a des proches. C'est là où ce personnage prend une autre dimension, j'ai la sensation, dans ce film, Gérard Depardieu.
Mais oui. Entre se chercher, je pense qu'il cherche aussi un souvenir, parce que c'est vrai qu'on ne connaît rien même de cette jeune morte. Il rencontre une autre jeune femme qui
Betty.
Est à peu près l'itinéraire, qui est Jade Labesque, qui est très très bien. Et puis il y a combien de jeunes femmes qui sont montées à Paris pour trouver du travail et qui se retrouvent dans des chambres de bonnes à essayer de faire domestique et ça elles ne veulent pas. Mais non, c'est particulièrement touchant parce que c'est une enquête même sur qui où il se heurte forcément à plein de choses de lui-même, enfin en tout cas de ce qu'il a vécu.
C'est une quête intime pour lui aussi.
Oui, tout à fait.
C'est une double quête en fait.
Oui, le mot introspection fait peur à tout le monde, mais c'est vrai que c'est autant le portrait de cette jeune fille, de cette jeune morte, que le portrait du commissaire Maigret lui-même. Allez savoir si c'est pas un peu le portrait de cet acteur.
Ouais. Ah, je sais pas, c'est vrai que...
Ouais.
Ce qui était étrange, c'est de voir que on puisse mourir si jeune et comme ça. Parce que c'est vrai, je connais pas mal de flics, et c'est vrai qu'ils font des... Ils sont devant des choses terrifiantes, impitoyables. C'est pas un hasard si après, ils doivent essayer de se faire remettre le cerveau en place, parce que c'est très, très, très dur. Mais chez Maigret, qui est un espèce de voyageur, comme ça, qui se trimballe d'enquête en enquête, il est un voyageur même pas curieux, puisqu'il écoute. Il écoute et il est toujours fasciné, il écoute et puis il vit. il vit, et puis avec une femme qu'il aime, qu'il a aimée, avec qui il y a eu aussi un enfant qui est parti. Donc il écoute un peu tous ces gens.
Il écoute et en même temps, il est très... ce que disait notre spécialiste tout à l'heure, Christine Fernault, que... Il n'était pas dans la révérence par rapport au monde bourgeois, parce que le seul moment où on le voit enlever son chapeau, par exemple, j'étais sensible à ça, c'est chez lui.
Oui.
Mais quand il rentre chez les autres, il ne l'enlève pas.
Il l'enlève jamais. Oui, mais le monde bourgeois, c'est sûr que ce monde bourgeois, là, en plus, dans ce livre-là, c'est quand même un peu détordu.
Alors, dites.
Les enfants, là, sont quand même très tordus. La mère aussi, qui est magnifiquement interprétée par Aurore Clément, est aussi très tordue, puisque finalement, les enfants reflètent leur seul modèle, c'est les parents. Et le gamin, il fait la même chose, quoi, la partie. Et puis, elle est très bien, notre petite. Comment s'appelle
Mélanie Bernier.
Mélanie Bernier, elle est adorable. Elle est tellement ça, cette jeune fille qui rabat un peu les proies pour son mari tordu. Comment dire? Je veux dire, on ne peut, il n'y a rien à faire ni rien à jouer. On regarde ça et on se dit, mais c'est possible tout ça. Et comment
oui, mais c'est ça ce qui est extrêmement touchant, enfin intéressant dans ce personnage du commissaire Maigret, c'est que il avance sans certitude. Autant Hercule Poirot et Sherlock Holmes, ils trouvent un trombone un petit peu tordu et cet indice va les mener à l'assassin. Et ils ont une espèce de certitude.
Oui.
Alors que Maigret, il tâtonne. À un moment dans le film, il dit « mais je ne sais pas, je tâtonne, je suis dans la nuit
oui. ».
C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il y a... Et moi, j'adore les personnages qui doutent. Les gens qui ont des certitudes, dans la vie aussi d'ailleurs, ou qui détiennent la vérité, sont vraiment chiants, quoi. Alors que Maigret, il avance.
Il chemine en avançant.
Il avance doucement.
Il tâtonne.
Comme une espèce de bulldozer. Ouais. Ça avance. Avec une légèreté de libellule, parfois. Oui, c'est un drôle de mélange, mais c'est ça qui est très émouvant chez ce personnage.
Et on vous recommande d'aller le voir en salle à partir d'aujourd'hui avec Jade Labeste, Mélanie Bernier, Aurore Clément, André Wims, dont on a parlé tout à l'heure, Hervé Pierre, Clara Antunes, Pierre Moore, Bertrand Poncet, Anne Loiret, Elisabeth Bourgine, Philippe Dujanéran et bien entendu Gérard Depardieu. Qui d'autre pour incarner ce Maigret? Et tout de suite dans la bande originale, c'est au tour de Tanguy Pastureau, s'il vous plaît.
Je suis content d'être blanc, c'est la meilleure couleur de peau. Bon, en tout cas, c'est la plus pratique. On est peu contrôlé par les forces de l'ordre.
Hein,
Paul Mirabel qui est blanc et blond. Il faut savoir que quand la police l'arrête, il se cotise pour lui offrir une Wonderbox. Hein, puis il le raccompagne chez lui, ils lui font une haie d'honneur devant le hall de son immeuble. Autre avantage d'être blanc, on s'amuse. Vous avez déjà entendu un noir au balto crier « Riton, fais pas ta radasse, tu sers la petite sœur » en tendant son boc de bière vide? Ben non, le groupe Licence 4, il y avait que des blancs et des saucissons. Les noirs sont tristes. Pour un Jimmy Cliff qui chante Reggae Night en slip de bain sur la plage, combien d'Isolt qui chouine? Et puis, quand on est blanc et qu'un autre blanc part en vrille, personne ne nous demande de nous justifier en tant que communauté. Jamais un type s'est approché de moi et m'a dit « ça va, Nordal le Landais, tu le vis bien ?» ou « excuse-toi pour le groupe Kyo ».
Hein?
Non, on n'est pas assimilé aux actes des autres blancs. Moi, j'ai croisé Enrico Macias deux fois, il m'a pas hurlé « bah bravo pour Hitler hein !» Au contraire, il m'a dit « si tous les gens du monde se donnaient la main, ça serait formidable ». J'ai répondu « ouais, mais enfin, faudrait beaucoup de gel hydroalcoolique bon. ». Mais bon, le souci, c'est qu'être blanc ou noir ou translucide pour Amélie Nothomb, ça veut pas dire grand-chose, c'est vague. Comme disent les épidémiologistes. On peut donc faire un test ADN en kit. Alors c'est la grosse mode, vous en achetez un sur le net, vous vous foutez un coton-tige dans la bouche. Si en plus vous vous faites en même temps un autotest Covid dans le nez, il ne vous reste plus qu'un seul orifice de libre.
Ah ouais.
Alors c'est peu, en soirée, on a vite fait de vous traiter de rabat-joie. Sur le coton-tige, il y a votre ADN, vous renvoyez ça à un labo au Texas et 15 jours plus tard, Rosine, 74 ans de Cambrai, découvre qu'elle est à 25% jamaïcaine, 37% laotienne et que son père René n'était pas son père, mais qu'elle est née des amours entre sa mère et Tornade, le premier berger allemand de la famille. Hein, là, elle se dit, je comprends maintenant pourquoi je voue une haine au facteur. Dire que je pensais juste être anti-fonctionnaire, bon, je suis rassuré. Bon, ensuite, elle rase ses oreilles pointues comme tous les soirs, puis elle va se coucher. Alors, je ne sais pas si vous avez fait déjà ce type de test ADN, mais c'est stupéfiant. Aux États-Unis, il y a quand même des suprémacistes blancs qui sont découverts des origines juives. Hein, c'est terrible, le choc. C'est comme si Pécresse se trouvait un ancêtre commun avec
avec Louise Michel. Alors comme ça, ça fait sourire. Mais ils sont obligés de refaire toute la déco de la baraque, les suprémacistes. Et une croix gammée peinte sur le mur du salon, c'est dur à ravoir. Même en collant des stickers de poussins tout autour, on ne voit que la croix gammée. Et puis, c'est quoi ensuite la vie d'un suprémaciste blanc juif? Se frapper lui-même en criant Zig Heil, dire aux copains du stand de tir, les gars, je sais pas trop comment vous l'annoncer, mais vendredi soir, je fais un truc chez moi. Il y aura à la fois des lectures d'extrait de Mein Kampf et des boulettes. Mais moi, ce test en kit, j'ai pas osé le faire. Parce que si je découvre que Daniel Morin est mon cousin et que tous les deux nous sommes gitans, ok, ça fera une chronique sympa, mais se retrouver à filtrer les appels de Daniel qui me dit j'ai eu Kenji Jira qui veut que ce soit nous qui lui remettions son Energy Music Award, super projet de vie. Hein, la loge avec M. Pokora qui me demande combien je pèse en K euros et à qui je réponds non, mais en fait, je travaille sur France Inter. Merci, quoi. Non, mais je refuse de savoir d'où je viens, où je vais. Ça fait peur, ces histoires d'ADN. Leïla, à chaque fois que par un titre de Dalida, vous êtes en train de bouger du bassin, c'est en levant vrai. Les bras au ciel. Si demain un test vous révèle que vous êtes islandaise, mais ça va vous casser votre truc, parce que Björk, même bourrée, elle fait pas la danse du ventre. Donc les gens envoient leur ADN pour en savoir plus sur leurs origines. J'ai recueilli un postillon de Morgane Cadignan en Caraïbes, tu parles, elle est néerlandaise. Bon. Mais le souci, c'est que ce sont des entreprises privées à qui on envoie notre salive, qui se créent des fichiers énormes avec l'ADN de tout le monde. Et certains s'en méfient. Prenez Macron, il y a 15 jours, quand il est allé voir Poutine, l'autre a sorti une table de 110 mètres de long, 40 rallonges. À chaque fois qu'il reçoit un pote, il faut 3 heures de montage. Bon, il s'était mis, lui, à un bout et avait collé Mac à l'autre bout de la table. On s'est demandé pourquoi. Moi, je pensais que Macron sentait de la bouche. Je veux dire, il faut bien qu'il ait un défaut. Il est beau, il est svelte, il a de la prestance. Il y a un moment, il pue du bec. Bon, on se dit, il y a une justice. Et en fait, la distance était due au fait que Macron a refusé de faire un test PCR de peur que les Russes collectent son ADN. Mais oui, parce que si les mecs avaient analysé le truc et qu'il était ressorti que Macron était 70% ukrainien, Poutine aurait cherché à le posséder. Or, il n'a déjà pas le temps de se faire posséder par Brigitte. Je veux dire, à chaque fois qu'il arrive déguisé en indice du CAC 40 et qu'elle lui dit « Tu veux l'avoir ma start-up ?», il est obligé de dire « Je suis président, j'ai du boulot. Enfin, » c'est pas pour se faire entreprendre par Poutine, un septuagénaire apathique qui porte le nom d'un plat canadien à base de frites. Mais pour nous qui ne serons jamais présidents, c'est le point commun qu'on a avec Anne Hidalgo. Chercher d'où l'on vient est tentant, Leïla. Parce qu'avec le test ADN, on a accès aux ADN des personnes qui correspondent aux nôtres. Et oui, plus de 900 personnes ont déjà découvert que le prince Albert était leur père. Hein, lui s'est dit, c'est bizarre que les 1000 autres ne se soient pas manifestés. Enfin, ils ont honte de moi ou quoi? Tout ça pour vous dire que Daniel Morin est peut-être gitan. Sa chaîne en or, sa chemise ouverte sur une cascade de poils, ça peut pas être un hasard. Fais-toi tester, vieux.
Mais oui, faites-vous tester.
Ah, nom de Dieu. Bah, le 19 mars, je vous dis pas où il va jouer, Tanguy. Voilà, ça va. À Bourg-les-Valences.
Allez, à Bourg-les-Valences.
Non, c'est pas un cri de guerre, c'est un grand endroit, là.
C'est que je vous vois tous les deux avec Kenji Girac en train de chanter. Oui, oui. Je pense que
c'est
ça vaut le coup.
Idée,
ça
vaut
le... Non, mais ça vaut complètement le coup. Nous, on reparle de Maigret, pardon, en salle, dès aujourd'hui. Un film de Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, vous reprenez aussi Barbara. Il va y avoir des dates bientôt. On va vous voir à Clermont-Ferrand le 2 mars, oui. Mercredi prochain. Le 1er avril et le 2 avril au Théâtre des Champs-Élysées à 20h. Avant d'en parler, juste de quoi se rafraîchir un petit peu la mémoire.
Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
En deux secondes, en fait, on est passé du rire, et là, j'ai les larmes qui me montent aux yeux quand je vous entends interpréter « Dis qu'on reviendra-tu, Gérard Depardieu ?» Il faut le dire, c'est un événement de vous voir sur scène, parce que c'est un privilège de vous voir sur scène chanter Barbara, avec Gérard Daguerre qui vous accompagne au piano, je ne l'ai pas mentionné.
Oui, mais Gérard est aussi très très bien, parce qu'on est... Avant, les pianistes jouent un peu fort, et c'est vrai que Barbara... Ne se connaissait pas le solfège, elle parlait des notes en couleur. Mais fais-moi plus de violet, là, s'il te plaît, montre le violet. Et la guerre était là, comme ça. Et moi, je lui dis, s'il te plaît, suis, tu faisais comme ça. Parce que ben, je ne suis pas Barbara, mais c'est les mots de Barbara qui nous emmènent, qui nous emportent. Donc, tu vois, je change comme elle aussi. Mais c'est vrai que c'est tellement émouvant, ces paroles. Et puis, elle n'a jamais pu chanter véritablement une de ses chansons, parce que le public les chantait en même temps. Quand on a fait Lily Passion, les gens chantaient, il y avait 1h45 de rappel, parce qu'ils refaisaient le spectacle. Et je la tirais, je lui dis, chante-leur une chanson, bordel. Là, la petite cantate. Non, non, ce n'est pas un tour de chant, c'est un spectacle. Elle n'avait pas tort, moi je ne savais pas. Mais là, je ne savais même pas les dates, tiens.
Le 2 mars, les rafraîchir. 2 mars, Clermont-Ferrand et Champs-Élysées, le théâtre des Champs-Élysées à 20h, le 1er et le 2 avril. Moi, je n'imagine pas que ce spectacle va s'arrêter. Il ne s'arrêtera jamais, Gérard Depardieu.
Ben, je ne pense pas, parce qu'il y a des choses, des tas de chansons qu'elle a écrites qui va falloir que je fouille un peu.
Vous auriez aimé être chanteur ?
Non, je crois pas. Non, non, chanteur, non, j'avais beaucoup trop de pudeur. Comment dire ? Je me souviens qu'il a fallu, Claude Régis, une pièce de Peter Handke, pour que j'ouvre la bouche. Parce que déjà, pour moi, rester la bouche ouverte, c'était impudique. Et c'est vrai, jamais je pouvais. Et je me suis retrouvé là à chanter. En fait, je chante pas, je m'amuse avec Barbara.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire, je suis une femme quand je chante Barbara. Et c'est très bien. Mais chanteur, je pourrais pas. Je vois, et c'est Peter Handke et Claude Régis dans le film La Chevauchée, non pas La Chevauchée, Les gens déraisonnables sont en voie de disparition. Il y avait Carlos Alessio qui était au piano, et puis il y a un moment où le Hermann Quitt se prend, parfois la nuit, je me réveille. Il se chante un blues comme ça. Je dis, merde, je chante.
Mais oui.
Et en plus, et elle me dit, mais tu chantes. Je dis, non, non, je déteste avoir la gueule ouverte, c'est terrible. On voit tout ce que t'as dedans, tout.
Vous chantez à la maison ou pas ? Est-ce que vous chantez ?
Non.
Vous fredonnez ? Non.
Non, non, je chante pas. D'ailleurs, je te dis encore une fois, j'oublie même. C'est peut-être que l'émotion va revenir. C'est mieux d'ailleurs, parce que c'est comme les répétitions. L'émotion va venir, parce que ça vient avec pas ce qu'on a vécu ou ce qu'on vit dans la journée. Ça vient juste avant. Parce que moi, j'ai pas le trac. Il y a Daguerre qui a essayé son piano. On a fait peut-être une petite... On a fait un filage pour voir toutes les lumières, les choses, sans se donner. Sans se donner, j'arrive pas de pas me donner. On y va. C'est comme les répétitions, pour ça qu'il ne faut pas les faire. Il vaut mieux les prendre, les tourner, puis hop, elle est bonne. Ou elle est pas bonne, on en fait une deuxième, et c'est bon. Ou ça sera moins bon, on en fait une quinzième. Non, t'as descendu fou, jamais.
Non, c'est pas le genre de Patrice Lecomte.
Mais c'est ça qui est beau, je ne sais pas. Et là, en entendant ça, je me dis, mais merde, c'est dans une semaine. Et ça fait tellement longtemps que je n'ai pas répété. Et je ne sais pas du tout ce qui va se passer au Théâtre des Champs-Élysées.
Eh bien, il va se passer un petit miracle, parce que comme à chaque fois que moi je suis venue vous voir, que ce soit au Cirque d'Hiver ou ailleurs, dans d'autres circonstances, à chaque fois, c'est un même spectacle, on pourrait se dire. Je l'ai vu, je crois, 5 ou 6 fois.
Ouais.
Et à chaque fois, j'ai été saisie.
Bien sûr, nous avons la scène, et puis notre bois de Vincennes. Mon Dieu, que les roses sont belles, à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même, à Göttingen, à Göttingen.
Et je voulais juste dire rapidement un mot, et merci Patrice Lecomte de me laisser le faire. Gérard Depardieu joue dans un autre film, Robuste, qui est en salle mercredi prochain. Et de toute façon, une fois qu'on a vu un très bon Maigret, on peut retourner en salle la semaine d'après pour voir un autre film avec Gérard Depardieu. C'est Robuste, avec un super casting. Et cette musique aussi.
Tiens. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor.
Robuste, un film de Constance Meyer, un film assez étonnant avec Déborah Lukumuena. Vous partagez l'affiche tous les deux. Vous incarnez Georges, un comédien très connu qui a à ses côtés un service d'ordre pour le protéger et l'escorter.
Mais qui ne veut pas répéter, qui ne veut pas les accessoires.
Alors s'il répète, il bosse un peu, hein, ce Georges, il bosse, on le voit répéter ses textes, on le voit apprendre ses textes. Je me suis dit, réalité ou fiction. J'essaye. Un film, en tout cas, où on est plongé dans la vie de cet homme et cette jeune femme qui fait du judo en compétition, enfin, la lutte.
Oui.
Qui est elle aussi physiquement le pendant physique de cet acteur Georges. Et ce sont ces deux êtres qui vont se confronter, ces deux univers,
oui.
Jusqu'au point où le personnage de Georges semble avoir besoin d'elle.
Oui. Ça sort de l'imagination de ma Constance, qui était d'ailleurs une des premières oreillettes que j'avais dans La Bête dans la Jungle. Ah. La pièce, je me souviens plus de l'auteur, disons, je jouais avec Fanny Ardant. Et c'est vrai que c'était la première fois. Alors les gens disent, oui, mais il a une oreillette. Puis du coup, ils s'y sont tous mis à l'oreillette.
Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas le seul à l'oreillette.
Ah non, maintenant, non, mais ils ne savent pas bien s'en servir.
Ah.
Parce qu'il faut avoir vraiment une espèce de truc, un autre cerveau, là. Parce que moi, j'adore. J'ai une oreillette presque pour ne pas penser. J'adore être détourné, enfin, le texte, parce que je les entendais dans la loge. Et donc, Constance était l'oreillette. Et je dis, tu devrais être actrice. Elle me dit, jamais, j'aurais peur. Sur scène, et puis je rougis tout. Ben, je dis, tu vas voir, tu peux être actrice. Et je faisais les mêmes tons qu'elle me donnait dans l'oreille.
Ah.
Et dès que je tournais, je dis, tu vois, arrête. Non, on a eu une grande complicité avec Constance. Et je pense qu'elle faisait des études complètement différentes de ce qu'elle est devenue. Je crois qu'elle est devenue ce qu'elle est, parce qu'elle a fait aussi Columbia Université, et elle a fait des courts-métrages aussi, mm-hmm. où j'étais dedans, comme ça. Non, c'est vraiment quelqu'un qui a un œil qui a un œil et puis un sens de la... Vraiment, il est fascinant, son premier film, là, parce que j'ai vu le court-métrage que vous avez avec le bébé dans cette espèce de tour.
Oui.
La tour où habite Houellebecq, d'ailleurs. Mais c'est... Je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce film, même si ça ressemble un peu dans l'espace où je vis, mais... Et puis même, là, on note cette jeune femme qui fait de la lutte, qui est extraordinaire dessus.
Je partage l'affiche avec vous et qui est vraiment géniale, qui avait reçu une récompense pour Divine. On l'avait vu dans Divine, Déborah Lukumuena. Et,
voilà.
Et il faut aussi, encore une fois, trouver une partenaire à la mesure de Gérard Depardieu. Et votre duo fonctionne très très bien à l'écran. C'est robuste, c'est en salle le 2 mars. Mais nous, on était réunis pour Maigret en salle aujourd'hui. Félicitations à tous les deux. C'était un bonheur de voir ce film et de voir naître une première collaboration. On espère que ça ne sera pas la dernière. Il est temps de vous présenter nos excuses, Daniel Morin.
Bah, je suis désolé pour le professionnalisme, le perfectionnisme qui ont pris, on peut le dire, un sacré coup dans la gueule ce matin, avec un réalisateur qui n'a pas relu tous les Maigret et un comédien qui ne sait même pas comment est morte la fille du héros qui l'interprète et qui ne veut pas répéter. Mais bon, ça c'est typique, hein, de l'impertinence des petits jeunes, des débutants que sont Patrice Lecomte et Gérard Depardieu, bien sûr. Désolé pour les pipes qui ne sentent pas la fumée, les escaliers qui ne seront pas montés par Gérard Depardieu. Et ouais, il l'a dit, pas d'accessoires, pas de mouvements. Pas de réalisateur, directeur, d'acteur. Ce sont des gens foutres. Et n'allez pas le contrarier. Le moment où je vous parle, je regarde ses mains. Et croyez-moi, si ça tombe, ça sent l'ecchymose. Désolé pour les fans de Patrice Lecomte qui espéraient un jour se régaler au cinéma en allant voir Ridicule fait du ski. Non, vous avez entendu Patrice Lecomte. Ça n'arrivera pas. En revanche, à la pause, Patrice Lecomte nous a confié qu'à la demande de Gérard Depardieu, il y aurait sûrement, très prochainement, Maigret fait de la luge.
On attend avec impatience. Donc, oui. Maigret fait de la luge en attendant Maigret.
Mieux, ce serait du bobsleigh. Je ne vous dis pas la vitesse qu'ils atteindraient.
Oh là 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 là. Mur du son.
Avec Gérard Depardieu dans le rôle de Maigret, bien entendu. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à la bande autour de la table. Passez une très très belle journée sur France Inter. Demain, on sera avec Clotilde M et Fabien Gorgeard pour une pièce de théâtre fabuleuse, Stallone. Et tout de suite sur France Inter, ce sont les carnets de campagne Philippe Bertrand.